Nous sommes en tout cas en compagnie du président de l'Académie Goncourt et de celle qui a obtenu ce Goncourt hier, Léla Slimani, je le rappelle, pour Chanson douce, et d'une universitaire, Marielle Massé. Bonjour Marielle Massé.
Bonjour.
Vous publiez Style critique de nos formes de vie et vous réfléchissez sur la manière dont on écrit la littérature aujourd'hui. Un bon exemple de la littérature contemporaine, c'est donc votre roman Léla Slimani. Je vais faire quelque chose de difficile. Je vais lire les premières lignes puisque vous ne vouliez pas chanter une chanson douce. Et finalement, je vais me lancer. Le bébé est mort, il a suffi de quelques secondes. Le médecin a assuré qu'il n'avait pas souffert. On l'a couché dans une housse grise et on a fait glisser la fermeture éclair sur le corps désarticulé qui flottait au milieu des jouets. Bernard Pivot a dit tout à l'heure que dans ses romans, il y avait une forme de noirceur, et le livre que vous venez de publier, qui a donc obtenu le prix Goncourt, Léla Slimani, est un roman noir.
Oui, c'est un roman noir qui explore effectivement la solitude d'abord d'une femme, ça dérive vers une forme de folie, et puis qui explore une relation extrêmement malsaine, truffée de malentendus, d'inconfort entre un couple et cette nounou qui vient garder leurs enfants. Donc effectivement, oui, c'est un roman dans lequel il y a beaucoup de noirceur.
Pourquoi avoir choisi d'écrire ce roman? Vous aviez déjà été remarqué pour votre précédent roman qui était Dans le jardin de l'ogre, qui était un livre sur l'addiction sexuelle d'une femme. Qu'est-ce qu'il y a en quelque sorte dans le choix de ces sujets? Comment faites-vous pour décider donc de traiter de tel ou tel thème, Léla Slimani?
Moi, ce qui me guide, c'est le personnage. Je suis vraiment guidée par ça. C'est le cœur de mon livre, la construction des personnages. Et j'ai été vraiment attirée par ce personnage de nounou. Je trouvais qu'à travers la figure de la nounou, sa position sociale, sa position à l'intérieur de la famille, ce que ça représente aussi en termes d'affection, c'est quelqu'un qui va donner énormément d'affection à des enfants qui ne sont pas les siens, qui vit dans un appartement qui n'est pas le sien, qui est une sorte de, voilà, de femme d'abord, comme je le disais tout à l'heure, déclassée, puis de femme aussi dépossédée de beaucoup de choses. Ce personnage m'a terriblement attirée et je l'ai poussé effectivement jusqu'à la tragédie, jusqu'au drame, puisque le livre s'ouvre sur un meurtre. Et c'est le fait d'explorer cette âme fêlée, cette âme brisée qui m'a passionnée.
Vous vous souvenez, Bernard Pivot, de ce que vous avez pensé lorsque vous avez ouvert ce livre? Vous l'aviez donc dans le coffre de votre voiture, vous m'avez dit tout à l'heure.
La noirceur, évidemment, tout de suite. Non, la seule première question, je me rappelle, et d'ailleurs je l'ai posée à Léla Slimani, parce que on a déjeuné côte à côte hier chez Drouan. C'était, je me suis dit, elle a mis la mort des deux enfants dans le premier chapitre. Elle aurait pu le mettre à la fin. Mm-hmm. Et autrement dit, elle a renoncé au suspense. Il n'y a pas de suspense. Au fond, elle raconte la mort au début. Et puis après, elle dit au lecteur, maintenant je vais vous raconter comment on en est arrivé là. Comment on est arrivé là? Et c'est encore plus fort, parce que quand on suspend, on ne sait pas trop où on va. Parce que là, chaque fois, on est obligé de tous les détails qu'elle va donner les uns après les autres doivent confirmer l'impression dramatique qu'on a eue au début. C'est ça qui est très fort dans son roman.
Vous vous êtes dit que c'était une construction audacieuse?
Oui, j'ai trouvé que c'était audacieux.
Léla Slimani, comment avez-vous fait pour écrire ce roman? J'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup d'échanges avec votre éditeur, qu'il y a eu de nombreuses conversations.
Oui, beaucoup. On a beaucoup travaillé ensemble. Il m'a beaucoup conseillé parce que j'étais consciente dès le début des écueils possibles. C'était d'abord difficile de commencer effectivement sur le meurtre des enfants. Je voulais surtout pas non plus donner l'impression de juger mes personnages, ni la nounou meurtrière, ni les parents non plus. Je voulais pas donner l'impression que je les rendais coupables ou responsables de cet acte-là. Et puis effectivement l'échange, parce que l'échange c'est aussi un soutien quand par moment on n'arrive plus à écrire ou qu'on a des doutes. C'est important aussi de pouvoir compter sur son éditeur. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup partagé pendant la période d'écriture.
Marielle Massé, vous qui vous intéressez au style et à la manière dont celui-ci révèle en quelque sorte un état de la littérature, ce Goncourt et plus généralement la noirceur dans les romans contemporains, qu'en pensez-vous?
Je trouve que c'est l'une des missions de la littérature. Enfin, Baudelaire disait qu'il avait assez de génie pour étudier le crime dans son propre cœur, et la façon dont vous avez endossé justement cette responsabilité-là d'essayer de vous situer dans une âme meurtrière, d'y rester, d'y faire votre nid là longuement, en renonçant au suspense, c'est très important ce que vient de dire Monsieur Pivot. Oui, je trouve que c'est un des enjeux considérables de la littérature, de nous installer dans des âmes, pas seulement dans d'autres vies que la nôtre, mais aussi dans des âmes dont on ne veut rien savoir.
Pour tenter de faire de la psychologie, pour raconter une histoire, dans quel but, Marielle Massé ?
Dans le but de dire juste, pas de dire quelque chose de vrai, mais de dire juste, de dire avec précision le multiple, le contradictoire, l'inacceptable. Enfin, c'est fait pour ça, la littérature. C'est pour essayer de dire juste, avec justesse, avec justice. Et vous avez parlé d'un style sec, enfin que vous essayez d'assécher, de priver de ses adjectifs, de tout ce qui pourrait en fait nous reposer dans la phrase, pour aller avec votre aiguillon d'écrivain au cœur de ce désir de dire juste, pas pour aimer ou justifier, mais pour accompagner le côté exorbitant de bien des choses de notre vie. À tous.
Comment est-ce ainsi que vous avez écrit ce livre, Leila Slimani, justement ?
Oui, ça me touche beaucoup ce qui vient d'être dit, d'autant que j'ai toujours pensé que, vous savez, ces dernières années, ces derniers mois en particulier, on a beaucoup parlé du mal, du terrorisme, de la folie, de tout ça. Et je crois que la littérature, la grande force de la littérature, c'est qu'elle peut investir ces questions, elle peut aller chercher la noirceur de l'âme humaine, elle peut interroger le mal, elle peut interroger le crime. Sans juger, sans poser ni de jugement moral, ni de bilan, etc. Mais juste essayer de sonder l'âme humaine, d'en raconter la noirceur. Et je crois que ces ambiguïtés aussi qui sont inhérentes à l'homme et à la condition humaine, elles sont aussi une des missions de la littérature. Et c'est très très important, c'est d'autant plus important aujourd'hui qu'on puisse raconter ça et qu'on puisse dire que l'homme n'est pas cet être manichéen divisé simplement entre le bien et le mal.
Bernard Pivot opine du chef, et par ailleurs on voit Bernard Pivot qu'il y a aujourd'hui une vraie légitimité à la littérature qu'on appelait jadis la littérature policière qui aujourd'hui donc est au Goncourt et a une formidable popularité parmi les lecteurs.
Oui, mais c'est pas un polar. Hein. Mmh. On va pas dire que c'est un polar. C'est un roman noir, oui, mais polar, non, absolument pas, parce qu'il n'y a pas de suspense. Donc, non, il n'y a pas du tout. Mais moi, je voudrais revenir sur l'écriture. Ce qui m'a frappé dans l'écriture de Leila Slimani, c'est que c'est une écriture qui est toujours en mouvement. Elle ne s'arrête jamais. Souvent, on voit des pauses dans l'écriture, des gens dans le style. Elle, pas du tout. Il y a toujours un détail qui s'ajoute à un autre détail, un mouvement, une attitude, une pensée, une parole, etc. Sans arrêt, et c'est ça qui m'a assez fasciné dans ce roman.
Marielle Massé, sur le style, puisque vous venez de consacrer un essai sur le style, puisque on a l'habitude de dire, évidemment, à tort, qu'aujourd'hui, c'est une donnée qui a disparu, le style, qu'il n'y a plus de grands stylistes. Lorsque vous lisez du Slimani ou un autre auteur contemporain, quelles caractéristiques peut-on donner à ce style contemporain, justement ?
Le style ne disparaît pas, ça n'a pas de sens de dire ça. Simplement, il y a de nouvelles façons de se tenir dans la langue, avec cette sécheresse, ou au contraire avec, disons, avec un désir presque baroque de faire droit à tous les détails, comme chez Vuillard. Enfin. Oui, il y a un engagement dans la parole. C'est la seule chose à laquelle on doit tenir à tout prix. C'est pour ça qu'on enseigne aussi la littérature.
Quelles sont les métamorphoses du style que vous avez observées? Parce que dans votre essai, vous balayez un grand nombre d'auteurs qui vont donc des poètes, Valérie, jusqu'à des enseignants ou des chercheurs en sciences sociales. Vous citez par exemple abondamment Barthes et Bourdieu. Quelles sont les caractéristiques que l'on peut dresser, puisque évidemment il y a malgré tout une empreinte du style dans notre époque?
Ben moi, ce qui me frappe chez beaucoup d'écrivains aujourd'hui, c'est que l'enjeu n'est vraiment pas de faire beau. L'enjeu, c'est de tenir ensemble ce désir de justesse et ce désir de justice, c'est-à-dire de lutter contre toutes les formes de l'inattention. Et je trouve que dans le regard porté sur des vies maltraités, sur des vies disqualifiées, sur des vies misérables ou sur des vies coupables à l'infini. La vertu de l'écrivain, c'est de lutter contre toutes les simplifications de « Ah, il y aurait quelque chose à reconnaître là, non, mais c'est pas tout à fait ça encore ». Donc il me semble que l'attention, le désir d'attention, le désir d'avoir mal là où le monde a mal, c'est encore une affaire de style et d'engagement dans la parole. Et c'est pas pour faire beau.
Léla Slimani.
Oui, moi je trouve que l'écriture, en tout cas dans mon cas, je le vis vraiment comme un acte généreux, mais pas du tout comme un acte de séduction. Je ne cherche pas à séduire le lecteur, au contraire, je cherche à le bousculer, je cherche à le déranger, à le mettre mal à l'aise. On dit parfois que je suis un auteur cruel. Il y a une forme de cruauté, mais qui n'est évidemment pas méchante, pas mal intentionnée. Mais moi, c'est la littérature que j'aime aussi. La littérature qui m'a le plus plu, c'est celle qui m'a empêchée de dormir, qui a remis en cause tout ce que je pensais.
Et alors ça vous a pas dérangé, Bernard Pivot, parce que vous disiez tout à l'heure, à juste titre à mon avis, que bien souvent on cherche à faire un coup dans le comité Nobel, par exemple, lorsqu'on l'a donné à Bob Dylan. Vous, quand vous avez lu l'ouvrage de Léla Slimani, vous vous êtes pas dit, mais quand même, les débuts sont durs.
Non, on s'est pas dit ça, parce que il y avait des romans beaucoup plus noirs que le sien. Alors, beaucoup plus noirs.
Très, hein. Très
noir. Non, quand vous avez des enfants en bas âge, c'est pas facile de dire le début de ce.
On aurait couronné Catherine Cusset, ça commence par un suicide, hein, en détail, raconté vraiment. Donc non, c'est pas. Non, c'est le roman. On l'a couronné tout simplement parce qu'on a trouvé qu'il y avait une adéquation parfaite entre une histoire, une écriture et l'intérêt que nous avons pris à la lecture de ce roman.
Et puis, nous avons débuté ce dialogue, Bernard Pivot, avec un extrait de l'apostrophe que vous aviez consacré à Marguerite Yourcenar. Et Marguerite Yourcenar trouvait parfaitement grossier le fait d'être assimilée à Adrien, puisqu'elle disait qu'elle n'avait rien à voir avec Adrien, mais que l'écriture, vous a-t-elle dit, était une manière justement d'essayer donc de se mettre dans la peau de ce personnage si éloigné. C'est ce que vous faites, Léla Slimani, notamment donc là, dans le cas d'une description de meurtre. Comment fait-on? Quelles ressources psychologiques peut-on mettre en branle pour pas venir à faire finalement ou à tenter une empathie avec quelqu'un qui est très éloigné de vous?
C'est assez difficile de
répondre. Je présume d'ailleurs, oui. Je vous dis que vous n'êtes pas une meurtrière.
Vous n'en savez rien. La présomption d'innocence, voilà. Mais bon. C'est assez difficile de vous répondre. En fait, pour moi, c'est moins psychologique que... Enfin, ça passe vraiment par l'écriture, ça passe pas tellement par la psychologie. C'est la force du mot, c'est la force de la langue, c'est la force du fait de se plonger à tel point dans le plaisir d'écrire, dans la joie créatrice, qui fait qu'à un moment finit par émerger ce personnage et qu'il finit par prendre sa place, mais c'est vraiment par l'écriture que ça place beaucoup plus que par un procédé psychologique.
Oui, je voudrais pas que les auditeurs de France Culture qui n'ont pas lu encore ce roman pensent que finalement les parents des deux enfants, ils ont engagé une meurtrière. Non, ils engagent d'abord une femme qui va être une femme formidable. C'est une femme aimante. Pendant très longtemps, c'est une femme aimante qui aime les enfants. Alors, vous avez très bien raconté au début, Léla Slimani, qu'elle n'a rien. Elle n'a rien, mais elle s'enrichit de l'amour qu'elle a pour les enfants et de l'amour que les enfants lui donnent. Ça, c'est le nœud même du livre. Et le crime ne vient que longtemps après, bien entendu.
Elle n'est pas un monstre par essence. Elle est un monstre parce qu'elle finit par commettre un acte monstrueux. Mais pendant le livre, elle n'est pas un monstre. On est un monstre que le jour où on commet cet acte-là. Mais pendant tout le livre, on peut penser qu'elle aurait pu ne pas le commettre aussi. Mais... qu'il aurait suffi de pas grand-chose pour que cette femme, finalement... prennent un autre chemin, fassent autre chose, et c'est aussi le récit de ça, de cette du fait qu'elle a glissé, parce qu'il y a eu un souffle, un coup de vent, quelque chose qui a fait qu'elle a glissé de ce côté-là. Mais moi, je crois à la liberté d'abord de l'être humain, mais à la liberté aussi des personnages. Et jusqu'au dernier moment, j'essaye de la raconter comme un être libre qui aurait pu choisir autre chose aussi.
La liberté dans le style et chez les personnages, Marielle Massé.
Oui, c'est intéressant ce que vous dites sur le souffle et le vent qui pouvait les grands romans parlent souvent de ça, d'une espèce de courant mystérieux, le rivage des Sirtes qui sort au début des années 50 et qui
de Julien Gracq.
Voilà, de Gracq, et qui semble se détourner totalement de l'époque, de la guerre, du souvenir de la guerre, de la souffrance de la guerre, et qui pourtant ne parle que de ça, du courant bizarre qui pousse des masses humaines à se jeter vers un événement désiré ou redouté, mais avec cette sorte d'étrangeté, on le sent bien, cet aiguillon tout à fait immaîtrisable qui nous place à côté de nous-mêmes. Donc oui, ce grand vent de la littérature, c'est...
Alors on ne veut inquiéter personne, et surtout pas Léla Slimani, mais on va quand même vous faire entendre la voix de Malraux à la réception de son prix Goncourt en 1933.
Il est d'usage, après tout prix littéraire, d'expliquer par quoi et comment le livre qu'on a écrit doit plaire à tous. Je désire qu'il n'y ait aucune équivoque sur le mien. J'ai essayé d'exprimer la seule chose qui me tienne à cœur et de montrer quelques images de la grandeur humaine.
Bernard Pivot, vous faites très bien Malraux, mais à la radio, ça ne se voit pas beaucoup. C'est quand même une lourde responsabilité, Bernard Pivot, chaque année, de découvrir quelqu'un qui doit pouvoir être comparé, notamment à Malraux.
Et à Proust. Et à Proust, oui, ben c'est quand même dans le palmarès, et à Proust d'abord. Hein. C'est quand même formidable. D'ailleurs, moi, je salue toujours nos prédécesseurs, nos lointains prédécesseurs, qui, après la guerre, la Première Guerre mondiale, je crois en 19, couronne Proust, c'est formidable. Ça quelle audace ils ont eu. Ça, c'est formidable.
Léla Slimani, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je veux pas vous accabler, mais bon.
Bah, je ne sais pas quel.
Est-ce que vous avez déjà un roman en tête sur la table de travail?
Oui, j'ai déjà un roman en tête. Et pour tout vous dire, j'ai eu une insomnie cette nuit, évidemment. Et je me suis dit que finalement, le plus grand bonheur que me procurait ce prix, c'est une envie, mais une envie féroce de travailler, d'écrire, de faire énormément de choses. Ça m'a vraiment donné un appétit insatiable. Donc je n'ai qu'une envie, c'est de me mettre au travail.
Bernard Pivot.
Vive le prix Goncourt.
Vive donc. Donc une chanson douce, le livre que vous venez de publier, Léla Slimani, et vive également l'ouvrage de Marielle Massé, style critique de nos formes de vie.